Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, trois thèmes ont été retenus pour vous, à savoir province de l'Équateur, arrestation ce mercredi à Dongo d'Oujani, le chef des insurgés, ce réclamant du mouvement de libération indépendante des alliés. Dans notre deuxième thème de ce soir, nous nous rendons dans la province orientale pour parler de la déclaration faite lundi dernier par les députés provinciaux de l'Ituri qui annonce le changement de ce district en province à partir du 15 mai prochain. Nous souhaiterons enfin par Kinshasa pour nous rendre à l'Assemblée nationale où plusieurs ministres du gouvernement central ont répondu mercredi dernier aux questions orales avec débat initié par les députés nationaux. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour le débat. Il s'agit de Médard Mbouyal Mangal, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Guilhem Banza, directeur de la radio-télé Fraternité et directeur provincial de l'agence congolaise de presse Kasaï Oriental, Arnold Mbolekouni, journaliste à la radio Télévision catholique Elikia. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant de commencer notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les trois thèmes retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux paris cette semaine à Kinshasa ont mis un accent particulier sur l'arrestation mercredi dernier à Dongo du dernier chef des insurgés du mouvement de libération indépendante des alliés. À ce sujet, la référence plus citant le ministre de la communication, précise Koudjan, a été capturé et livré à la police par ses frères du clan de Dongo. Une arrestation qui n'est pas confirmée par des sources indépendantes souligne le potentiel. De son côté, le palmarès renseigne qu'il y a une controverse autour du lieu de l'arrestation du chef désigné Lee qui est signalé à Ifondo. Pour le palmarès, peu importe le lieu de la capture du chef désigné Lee, le temps qu'il faisait et la qualité des personnes qui l'ont arrêté, les conseils et la satisfaction de la population. La tempête tropique de son côté, revient qu'il y a fort à craindre que le mouvement survive à son chef avec les troupes équipées qui sont au fin fond de la brousse. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la déclaration des députés provinciaux de l'Ituri annonçant le changement de ce district en province à partir du 15 mai prochain. Le potentiel signale que derrière cette déclaration incendiaire de ces députés, il y a une main invisible qui pousse encore des Congolais à poser des actes de rébellion avec comme finalité de balkaniser la RDC sous des prétextes fallacieux. Terminons cette revue de la presse avec le passage de plusieurs ministres du gouvernement central devant l'Assemblée nationale. Pour la prospérité, les questions orales avec débat n'auraient laissé Jani Mabunda, Moussa Nyamoussi et Léonard Machako Momba sans la moindre égratignure. Aussi, Adolphe Lumanu, Charles Mwando Simba, Lambert Mende et Fridolin Kasuji seront conviés à la prochaine série indique la prospérité.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Mbouyal Mangal, journaliste à la RTNC, un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Elle a restitué tous les grands faits vécus au niveau de notre société, ce qui est une bonne chose parce que, évidemment, lorsque vous vivez en République démocratique du Congo, les problèmes majeurs tels qu'ils sont en train de se poser au niveau de l'opinion, c'est toutes ces questions qui ont été relayées par la presse dans sa diversité.
Arnold Mbolekouni, journaliste à la radio-télévision catholique Elikia, un petit commentaire aussi.
Oui, mon commentaire peut être tout simplement que les constats faits après avoir suivi cette revue de la presse pour que le pays ait vraiment une ébullition, sur tous les plans, surtout à la veille du cinquantenaire, ça prouve qu'il y a des choses à dire quoi, par rapport à cela.
Et Guilhem Banza, vous intervenez en particulier la province du Kasaï Oriental. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, ici chez nous, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, ce sont des conflits qu'on enregistre dans certaines parties de la province du Kasaï Oriental. Nous partons de Lodja, dans le district de Sankourou, il y a eu des cases brûlées, incendiées, il y a eu des problèmes entre les forestiers et les savaniers, c'est tout cela autour d'une zone de santé ou des véhicules qui sont attribués aux zones de santé. C'est un conflit aujourd'hui, le gouvernement s'est déplacé pour Lodja pour essayer d'apaiser la tempête. Moniditu, également la deuxième ville de la province du Kasaï Oriental, on a également des problèmes de conflits entre les Kanyokes et les Nkanichi. Il y a des tracts qui ont circulé, ça de soulever des gens et le gouvernement se prépare à descendre là-bas. Nyamagita, un territoire de la province du Kasaï-Oriental, il y a également eu des affrontements entre deux clans dans les Benampiana. Je crois que c'est ça la grande actualité parce que le gouvernement est debout par rapport à ça, le gouvernement provincial.
Merci Guilhem Banza. Premier terme de ce soir, province de l'Équateur, arrestation mercredi dernier à Dongo Doudjani, le chef des insurgés, c'est le réclamant du mouvement de libération indépendante des alliés. Annoncé par le gouvernement central, cette nouvelle n'est pas encore confirmée par d'autres sources. D'après le ministre Lambert Mende, Doudjani a été capturé et livré à la police par ses propres frères sur place à Dongo, où il est rentré pour un nouveau recrutement. Doudjani est le chef des insurgés qui ont attaqué début avril la ville de Mbandaka. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, relate les faits au micro de Jacques Molina.
Doudjani a été capturé par les populations de Dongo où il était rentré essayer de recruter encore des gens après sa défaite de Mbandaka d'où il s'était échappé. Et il a été capturé par ses propres frères de clan qui l'ont livré à la police nationale congolaise. Oui. Il est maintenant en route vers Mbandaka d'où il sera acheminé à Kinshasa pour répondre de ses faits. Nous saluons avec beaucoup de chaleur la contribution de la population de Dongo aux efforts de pacification entreprises par le gouvernement, les FRDC et toutes les forces de sécurité. Et nous appelons tous nos autres compatriotes à s'inspirer de cet exemple pour soutenir le gouvernement lorsqu'il essaye de ramener la paix dans notre pays.
Arnaud Mbolekouni, vous êtes journaliste à la radio-télévision catholique Elikia. Comment vous avez accueilli cette annonce de l'arrestation d'Doudjani faite par le porte-parole du gouvernement central?
Oui, je l'ai reçu positivement, surtout que la présence de M. Doudjani était une sorte d'épine pour le gouvernement. Bon, c'est bien de s'en débarrasser. Mais par rapport à cela, beaucoup de questions aussi émergent à ce sujet. C'est-à-dire, dès le départ, un pêcheur qui se transforme en seigneur de guerre. Ça veut tout simplement dire que comment il a pu obtenir des armes et jusqu'à recruter, nourrir ses militaires ou soit ses alliés. Alors, il y a encore une autre question qui émerge. Aujourd'hui, on apprend qu'il serait capturé à Ifono et non à Dongo comme annoncé par le ministre. Je me dis, c'est vraiment un énigme qui demande à ce que le gouvernement éclaircisse la population et sur la vraie identité de M. Doudjani, voire même son nom. Tantôt, c'est Doudjani, alors on ne sait pas vraiment ce qu'il est.
Ariel Mangal, pour Arnold, c'est avec satisfaction qu'il a accueilli cette nouvelle de l'arrestation d'Doudjani, mais seulement il y a une certaine controverse sur les lieux de son arrestation. Est-ce que cela ne crée pas un doute?
Le plus important, c'est l'arrestation d'Doudjani. Ce n'est pas le site de son arrestation qui poserait problème. S'il aurait été arrêté à Ifondo, ça signifie qu'il y a eu la coopération au niveau des deux États entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, ce qui est déjà une bonne chose. Ça veut dire que les États sont en train de fonctionner pour faciliter la paix, pour faciliter la sécurité. Donc ça, c'est tout ce que nous sommes en train d'attendre de nos États. N'oubliez pas que la République du Congo et la République démocratique du Congo font partie des États de la sous-région de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et nous sommes, on partage un voisinage de plus de 1000 kilomètres. Il faut qu'on apprenne à se sécuriser mutuellement. Et deuxième élément, souvenez-vous, madame, du moins pour ceux qui ont fait le latin comme moi, on a étudié ce Cicéron, je crois, deux ou trois siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Lui, déjà à son époque, il lançait le message pour que le pouvoir militaire soit soumis au pouvoir civil. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans une démocratie. Kabila, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il a été élu par les élections de 2006. Les députés nationaux qui siègent maintenant avec Bochar comme président de l'Assemblée nationale, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, ils ont été élus à l'issue du processus de 2006. Au Sénat et à tous les niveaux, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le résultat des élections, il en est de même des assemblées provinciales. Cela veut dire quoi? Nous devons nous inscrire dans un processus qui sécurise, c'est-à-dire permettre que la démocratie fonctionne. Donc on devra mettre un terme à cette manière de faire. Tu tires un coup de fer à gauche à droite, le lendemain on t'amène au gouvernement. Parce qu'on connaît, tu tires un coup de fer à gauche à droite, le lendemain on te donne de l'argent. Je crois que c'est ce mécanisme sur lequel
les gens comme Oujani et bien d'autres veulent s'asseoir. Mais imaginez-vous, madame, que dans chaque tribu, on en a certainement plus de 5 fois. Si dans chaque tribu de la République démocratique du Congo, quelqu'un se dit, chez nous, il n'y a pas une école. Et donc, comme il n'y a pas une école, je dois prendre les armes. Comme il n'y a pas une maternité dans mon village, je dois prendre les armes. Moi, je vous parle, je suis du territoire de Kazumba, particulièrement dans le sud, vers Tchibala. Là, vous pouvez même parcourir 50 km sans trouver des écoles, sans trouver une maternité pour les femmes. C'est pour autant que nous sommes obligés de prendre des armes pour nous faire entendre. Nous disons non. Il faut apprendre à dialoguer dans le cadre des institutions qui sont là. Elles peuvent présenter des difficultés. Il faut qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à crier certainement. On finira par être écouté. Donc, il faut quitter l'univers dans lequel on arrive au pouvoir parce qu'on a été chef de guerre. Donc, ça ne sécurise pas. Le lendemain ne sera pas meilleur avec des chefs de guerre qui arrivent au gouvernement.
Guilhem Banja, vous avez suivi les deux confrères pour Arnold. C'est bien qu'on ait arrêté Oujani, mais le problème se situe au niveau du lieu de son arrestation. Bouyal, lui, pense que le lieu n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que Oujani ait été arrêté. Vous, comment vous avez accueilli cette annonce faite par Lambert Mende?
Oui, la première chose, c'est que la nouvelle est bien tombée parce que nous avons besoin de la paix sur toute l'étendue de la RDC. C'est la première chose. Et la première réaction à chaud, c'était celle-là. En tout cas, de la plupart des personnes que nous avons pu contacter après l'annonce de cette nouvelle par le ministre Lambert Mende. Mais alors, il y a des questions qui se posent. Pas par rapport à l'endroit où il a été capturé, non, mais Oujani, c'était non. Est-ce que depuis longtemps, du côté gouvernemental, on savait que le chef de ce groupe d'insurgés s'appelait Oujani? Si oui, est-ce que, comment l'ont-ils su? Est-ce que parce qu'après les derniers affrontements, ils ont pu avoir des informations de ceux qu'ils ont capturés après les affrontements? Mais la grande préoccupation est que, ici, on se demande si réellement celui qu'on a arrêté, c'est le chef des insurgés Agnelli. Pourquoi on se pose cette question par ici? Parce qu'on s'est dit, d'abord, les insurgés, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont été dans la ville, et tout de suite on nous dit qu'il est arrêté à Dongo, non pas par les éléments des FARDC ou de la police, mais plutôt par la population. Et c'est une question. Donc depuis, quand il y a eu affrontement et tout, la police, l'armée et tout ça se sont dispersés, ils ont laissé les villes, les cités sans sécurité, et c'est la population qui devait se prendre en charge. Là, c'est déjà une question capitale qui se pose à travers la ville. Mais une autre question, c'est par rapport à l'arrestation elle-même. Est-ce que c'est la déclaration du gouvernement n'a-t-elle pas été faite pour calmer la population qui pouvait vivre sous stress par rapport à ces gens? Et on a fait cette déclaration pour apaiser cette population. Donc, les questions comme ça méritent bien d'être posées et on a besoin de réponses par rapport à ça. Et Oujani, arrêté aujourd'hui, amené comme ça à la police par la population, on s'est dit, il y a une autre langue qui dit, bon, on ne sait pas, ça peut être une mascarade montée, juste quelqu'un qu'on a dit, bon, au fait, on a besoin de ça pour calmer un peu les gens, pour dire, finir la guerre. Toutes ces questions sont importantes parce que lorsque la population se pose des questions, il faut que nous, au niveau de la presse, nous puissions les poser officiellement parce que nous disons ce que la population dit. Moi et mon analyse est telle que nous voulons la paix et sur toute l'étendue de la RDC, il faut la paix, mais il ne faut pas qu'il y ait de mascarade, de semblant de paix, parce que si la vérité est là, elle finira toujours par ressurgir. On a dit longtemps par des grandes puissances, on a arrêté Ben Laden, on l'a arrêté ici à gauche, à droite, mais c'était que Ben Laden était toujours vivant quelque part. Il faut qu'on nous dise la vérité à ce sujet.
Voilà, et Guilhem Banja, vous dites qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au Kassai oriental. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que la population soit sûre que c'est le vrai Oujani qui a été arrêté?
D'abord, c'est la population qui l'a arrêté. Si c'était le vrai, on pouvait l'arrêter dans une cachette. On l'a arrêté avec qui, chez Consoeur? Il faut qu'on se pose toutes ces questions. Où il était seul? Est-ce qu'un chef des insurgés, un chef rebelle peut se promener seul? Vous pensez? Et quand il sort pour les recrutements et conseils, il est organisé, il a ses troupes. Mais qu'on nous dise comme ça, non, ben, non. La population s'est dit, le gouvernement devrait plutôt chercher des moyens justes pour communiquer avec la population. Tout de suite, on l'a arrêté et seul, et là, ce sont des questions qui se soulèvent. Il ne peut pas se marcher seul avec cette impudence, il doit se faire accompagner de ses troupes et de ses gens pour faire cette opération-là. La population souhaiterait que le gouvernement puisse plutôt parler d'une sécurité qui est soutenue, parce que pour l'arrestation de Gianni, il y a des hésitations, il y a des doutes qui flambent par rapport à ça.
Merci Guylaine Banja, Médard Mbouya, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. Est-ce que c'est le vrai qui a été arrêté? Est-ce que ce n'est pas une mascarade? Est-ce que ce n'est pas un scénario et tout, là, plein de questions que la population se pose. Mais est-ce que cette arrestation pourrait mettre fin à l'insécurité dans la province de l'Équateur?
Ben, moi, je dis ça pas directement, parce que la question de la sécurité, c'est aussi une question d'ordre psychologique. Si les gens veulent se mettre dans la paix, ils acceptent la paix. Si les gens psychologiquement ne veulent pas se mettre dans l'environnement de la paix, ils ne la voudront pas non plus. Donc ça dépend du milieu, ça dépend de ce qu'on veut. Si quelqu'un veut une visibilité politique du fait de l'insécurité qu'il va créer d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce qui le sait, il va produire les résultats de ses intentions ou de ses agirs. Donc, dans le contexte actuel, nous recherchons la paix. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé des aventures, qui ont fini par un dialogue intercongolais, qui ont amené un certain nombre de gens au pouvoir, et les élections ont été les derniers mots. Alors, nous ne devons plus retourner du moment que nous sommes en train de nous approcher vers l'organisation des élections générales pour l'année 2011. Du moins, si on peut croire à la volonté de ceux qui nous dirigent, on n'a plus besoin de faire brûler un coin pour pouvoir faire des réclamations. C'est ça, je m'inscris en faux dans une logique qui voudrait, dès lors que chez nous, on n'a pas mangé, qu'on a écrit, qu'on a se mettre dans un coin et qu'on tire sur les paisibles citoyens, qu'on tire sur le policier congolais pour contraindre l'État à négocier avec vous. Donc, la négociation pour le pouvoir, j'ai continué et j'affirme que c'est du but révolu. Cherchons d'autres manières de vivre dans notre pays, dans notre nation, que de vouloir y passer par des armes.
Voilà, par rapport à l'insécurité, donc pour vous, c'est l'insécurité ne pourra pas prendre fin directement après l'arrestation de Gianni. Il faut un processus. Hein,
donc il y a un processus d'éducation. Il faut une éducation civique pour tous les citoyens, que les citoyens comprennent que l'État peut présenter des difficultés dans la résolution d'un certain nombre de problèmes, et ce n'est pas pour autant qu'on va dire nous allons rejeter cet État, nous allons devenir des Français parce que dans notre pays il n'y a pas ceci, cela, nous allons devenir Américains. Non, on cherche une autre manière de résoudre les problèmes à l'intérieur, au travers des institutions. Voilà la voie qui m'intéresse, moi.
Arnold Mbole-Koumi, est-ce que l'arrestation de Gianni signifie la neutralisation de ce mouvement des insurgés?
Bon, automatiquement, je dirais que ça ne résout pas réellement les problèmes de sécurité. Mais je disais tantôt là que le gouvernement doit se poser des bonnes questions et donner des très bonnes réponses. Ça veut dire Gianni n'est jugé pas seul, il n'est pas un atome isolé comme il le dit. Alors, le gouvernement doit chercher à savoir si réellement c'est Gianni qui était à la base du conflit initial à Dongo, à l'Équateur. En même temps, savoir s'il était seul ou il avait des complices sur place au pays ou à l'étranger. Puisqu'on a appris qu'il est rentré à Dongo pour recruter. C'est-à-dire c'est qu'il a des moyens qu'il reçoit, alors que c'est un pêcheur qui se transforme en seigneur de guerre. Donc, le gouvernement doit chercher d'abord à lever les doutes dans ces domaines, c'est-à-dire savoir sa bande, démanteler sa bande, et après cela, peut-être la paix peut définitivement revenir à l'Équateur.
Et donc ce mouvement va continuer à exister?
Dès lors que le problème n'est pas attaqué à partir de ses racines, le mouvement peut continuer.
Merci Arnold Mbolekouni. Deuxième terme de ce soir, le district de l'Ituri change de statut le 15 mai prochain et deviendra la province de l'Ituri selon la déclaration des députés provinciaux de la province orientale originaire de l'Ituri. C'était lundi dernier devant la presse de Kisangani. C'est notre deuxième terme de ce soir. Ces députés affirment qu'ils se fondent sur l'actuelle constitution du 18 février 2006 dans son article 2 qui stipule que la date du vendredi 14 mai 2010 est la date butoir d'installation des provinces. Toujours pour ces députés, l'Ituri est prêt à fonctionner comme province avec toutes ses institutions. L'honorable Floribel Katanabo, porte-parole des députés de l'Ituri, au micro d'Ancien Massois.
Nous, députés provinciaux de l'Ituri, réunis à Kisangani du 17 au 29 avril 2010 en vue d'analyser la situation générale de l'Ituri, caractérisée par la sous-administration et la mauvaise gouvernance dont les effets néfastes multiformes sont, entre autres, les détournements des deniers publics, la corruption, l'institutionnalisation des opérations retour à tous les niveaux des services, l'insécurité persistante. Saisissant l'opportunité que nous donne la Constitution et la loi numéro 08/012, compte tenu de la viabilité de l'Ituri et de sa disponibilité en infrastructure minimale pour le fonctionnement de la province, déclarons considérer la date du samedi 15 mai 2010 comme celle du démarrage effectif de notre province de l'Ituri avec toutes ses institutions. Demandons aux institutions nationales de s'assumer face à cette déclaration.
L'honorable Floribert Katanabo est plutôt membre de la coordination des députés de l'Ituri. Il est au micro d'Anselme Massois. Arnold Mbolekouni, journaliste à la radio-télévision catholique. Comment vous analysez cette déclaration des députés provinciaux de l'Ituri?
Bon, je me dis que la situation telle qu'elle est décrite par l'honorable député, bon, la plupart de nos territoires ou districts du Congo, la plupart connaît cette situation aussi. Bon, moi je dis encore, aujourd'hui c'est les districts de l'Ituri, les députés provinciaux de ces districts réclament, oui c'est vrai, ils ont raison par rapport à la constitution, mais bon, demain ça risque d'être aussi les tours des autres districts. Alors je me dis, le gouvernement face à cette situation, c'est comme un signal d'alarme. Le gouvernement doit jouer à l'anticipation au lieu de rester presque indifférent, comme on les constate maintenant. Bon, je me dis, c'est question que l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement puissent voir ensemble comment résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, c'est l'Ituri, comme je viens de le dire. Demain, ça peut être un autre district.
Voilà. Mbouyal Mangal, est-ce que ces députés, en raison de faire cette déclaration, ils s'appuient sur la Constitution qui dit le 14 mai, c'est la date butoir d'installation des provinces?
Oui, les députés provinciaux de l'Ituri ont bien raison d'avoir communiqué de cette façon. Parce que justement, cette communication vient bousculer les institutions qui ont la mission de pouvoir participer ou de faire la mise en œuvre des nouvelles provinces. Parce que souvenez-vous qu'au niveau du ministère de la décentralisation ou du ministère de l'Intérêt qui a la charge du découpage, nous n'avons pas entendu ou qu'on n'a pas élaboré un critérium de viabilité des provinces. On devrait nous dire voici les critères pour une province viable, pour des provinces non viables et des provinces pas viables du tout. Ces critères n'ont pas été communiqués. Donc ça c'est la première insuffisance. Il ne nous a pas été donné le coût. Quel est le coût financier de la création d'une province? Tout ce qu'on a entendu, que des experts de la Banque mondiale, que des experts du Fonds monétaire ont dit ceci, cela. Pourtant, dans ce pays, nous avons connu une volonté politique qui a permis de démarrer un découpage. L'expérience de l'actuel espace du Kivu. Il n'y a pas une mobilisation des ressources financières assez importantes. On s'est dit, on démarre et on a essayé. Donc voilà ce qui a manqué aux institutions actuelles issues des élections de 2006. On a dit, on savait que dans 3 ans, le découpage allait intervenir. Mais on n'y a pas trouvé suffisamment. On s'est réveillé, on dit non, on veut renvoyer. Non, il y a effectivement des districts qui répondent aux critériums
minimale pour pouvoir accéder au statut de province. Et ça, il faut le reconnaître.
Comme le Litourie, par exemple.
Oui, ça c'est connu, c'est établi. On ne peut pas douter de ça. Mais je veux vous remonter aussi sur le plan de l'histoire. Et comme je suis du Kassai occidental, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on appelait la province de l'unité kassaïenne. Elle a été créée en 1900, elle a fonctionné de 1962 à 1966. Alors cette province a fonctionné avec une assemblée provinciale, avec un gouvernement provincial, et elle avait comme siège Tshikapa. L'actuelle ville de Tshikapa. Donc, pendant 3-4 ans, cette province a fonctionné et dans les conditions de viabilité. C'est seulement le coup d'État intervenu en 1965 qui a précipité le fonctionnement de la province de l'unité kassaïenne. Donc, mais malgré le fait que cette province n'a plus fonctionné, mais il y a l'esprit qui a continué à régner, que ce qu'on appelle l'esprit de l'unité kassaïenne, malgré le fait que formellement la province n'existe pas, mais les gens continuent à s'identifier comme tels autour de ce qui existait par le passé. Et donc, la faiblesse de ceux qui ont eu la charge de gérer le découpage, au-delà de la décentralisation, n'ont pas suffisamment communiqué, n'ont pas dit à la population quels sont les critères qui permettent d'apprécier que telle province est viable et telle province ne l'est pas. Et dans la plupart des cas, nous avons entendu qu'il n'y a pas de bâtiments, il y a des éléments aujourd'hui. Avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est des appuis, c'est des atouts pour pouvoir aller, pour faciliter le découpage. Mais il y a aussi, regardé à travers le pays, autant de tracteurs qu'il y a au pays, ça devait être des éléments pour appuyer davantage l'idée de construire de nouvelles provinces, l'idée de construire de nouvelles infrastructures, mais je dirais au-delà de ça. Il y a autant de technologies aujourd'hui, par exemple, en Afrique du Sud, vous avez des unités, par exemple, qui vous permettent de fabriquer 100 à 150 000 briques par jour. Alors justement, pour construire de nouvelles provinces, nous allons utiliser les matériaux locaux. Aujourd'hui, les briques, on les fabrique localement, les tôles, on peut les acheter à partir de Kinshasa, sinon autour à Lubumbashi ou ailleurs. Mais tous ces éléments n'ont pas permis, c'est vrai, il faut dire que la volonté politique n'a pas été au rendez-vous pour que nous puissions avancer. Justement, aujourd'hui, l'Ituri est en train de nous interpeller et puis il faut faire un pas avec l'Ituri.
Et donc, c'est le gouvernement qui est responsable si les autres provinces arrivaient à emboîter les pas de l'Ituri.
Oui, le gouvernement ne peut être que responsable. Parce que, regardez, au niveau du fonctionnement du ministère de l'Intérieur et au niveau du fonctionnement du ministère de la Décentralisation, le concept de coupage n'apparaissait pas clairement. On ne connaissait pas qui a en réalité la charge du découpage ou des études ou des nouvelles provinces. Nous savions tous que le découpage, c'est un défi politique, parce que ça permet finalement d'aérer l'espace politique. Je connais, aujourd'hui, nous avons un ministre provincial du Katanga qui a été ramené au gouvernement central, c'est Fridolin Kassouchi. Sympa, mais il y a aussi des anciens membres du gouvernement central qui se sont retrouvés aujourd'hui dans le gouvernement provincial ou dans les assemblées provinciales. Donc, plus on crée des espaces politiques, plus on crée des espaces d'expression, ça veut dire ceux qui n'auront pas trouvé des espaces au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ils pourront trouver satisfaction au niveau des assemblées provinciales. Ça fait partie de la gouvernance et nous ne devons pas nous inquiéter de ça parce que ça figure dans notre constitution.
Guilherme Banza, est-ce qu'il revient aux députés de décider qu'à partir d'aujourd'hui, notre district devient province? Il y a quand même des institutions qui sont chargées d'appliquer les dispositions de la Constitution.
Oui, mais c'est dommage. C'est dommage d'apprendre que ce sont les députés eux-mêmes qui font cette déclaration. En fait, s'ils pouvaient interpeller le gouvernement au niveau du Parlement pour cette question, je crois que ce serait mieux. Pourquoi prendre une décision à ce niveau-là? Je crois que je suis d'abord d'accord, parfaitement d'accord avec le confrère Médard Mouyal lorsqu'il parle de la communication. C'est là que je voulais commencer. La communication n'est pas là. On ne voit pas la communication entre le gouvernement et la base. Le gouvernement ne parle pas clairement de ce qui doit être fait par rapport à cette histoire de découpage territorial. 25 provinces dotées de la personnalité juridique, plus la ville de Kinshasa. Moi, je crois que ça, C'est bien beau, la Constitution le dit, mais est-ce qu'ils ont pris des dispositions, je crois, sur le plan du coût, le confrère l'a dit avant moi, combien ça devait coûter l'installation d'une province? On parlait à un moment de plus de 50 millions ou quoi, bon, ce ne sont pas des chiffres très exacts peut-être, mais on devait communiquer avec la base. Aujourd'hui, on ne peut pas faire cela parce qu'on manque ceci et cela. Et moi, je pense qu'ils devaient y aller, s'ils pouvaient y aller progressivement, ils allaient réussir. Qu'ils commençaient tout de suite à créer 25 provinces, ce n'est pas facile, même s'ils pouvaient demander au gouverneur actuel de commencer à construire des infrastructures au chef-lieu de chaque district, qui était supposé devenir province plus tard. Et où sont les moyens? Est-ce que le gouvernement central a rétrocédé les moyens nécessaires au gouverneur pour que ces travaux soient faits? Je crois que la part des responsabilités, en grande partie, revient au gouvernement central. Mais les députés ont fait cette déclaration. J'ai suivi la déclaration de l'honorable Floribert, mais je crois que c'est bien de faire une déclaration pareille, mais en dehors de l'hémicycle. Je crois que c'est, je considère cela comme un peu un non-sens, parce que j'ai appris que même les sénateurs, les députés nationaux de l'Ituri...
Ils ont appuyé cette démarche.
S'il vous plaît.
Si les sénateurs et députés nationaux de l'Ituri ont appuyé cette démarche.
Ont appuyé la démarche. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le Premier ministre était devant le Parlement, les ministres sont ce qu'il faut, c'est un autre sujet qu'on va débattre tout à l'heure, mais je reviens au fait qu'il n'y a pas eu de communication. Pas de sincérité de la part du gouvernement, qui voudrait bien faire quelque chose, mais il faut éclairer la population pour dire on ne saura pas faire cela parce qu'on manque, mais quand on se tait, alors les gens commencent à se soulever. Mais ici, au niveau de l'Ituri, on dit cela. On déclare que déjà le 15, on est une province, ainsi de suite, mais ce sera une province autoproclamée comme cela, même si dans la Constitution, Ituri est prévue comme future province. Est-ce qu'il faut, absolument arriver à le déclarer de cette manière, comme ça, tous les autres vont le faire, et ça sera quoi? Le pays sera ingouvernable. Moi, je crois que la démarche n'est pas très bonne et je ne donne pas beaucoup de chance de réussite de cette démarche parce que il faut carrément aller auprès du gouvernement poser le problème. Le gouvernement a failli, je le dis entre guillemets, parce que on n'a pas vu clair, soit là-bas même ici au Cathay Oriental, on a senti à un certain moment que dans certains districts, on disait déjà province 2 dans certaines correspondances, avant que ça ne soit province. Vous voyez que les gens ont cette soif de devenir province, mais le découpage lui-même, lorsqu'un confrère évoque la viabilité d'une province, on n'a pas dit cela. Et qui a dit que ça doit devenir province? Ce sont des calculs politiciens. Est-ce qu'on a consulté tout le monde pour savoir quelle entité devient province ou pas? Si on dit qu'Ituri aujourd'hui réunit toutes les conditions pour recevoir la province, ok, tant mieux, mais il ne faut pas y aller par cette voie-là. En suivant l'honorable Floribert, il dénonce les détournements de données publiques, la corruption, les sécurités, les opérations retour. Mais qui dit que quand Ituri sera province, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas l'opération retour.
Merci.
La motivation n'est pas là. Il fallait dire seulement, il est temps, on a promis, la Constitution a dit cela, où est-ce qu'on en est à ce jour?
Je crois.
C'est là qu'il fallait poser le problème.
Arnaud Mbolé-Kouni, s'il arrive à ce que cette déclaration prenne effet les 15 mai prochains, quelles pourraient être les conséquences sur le fonctionnement de la province orientale? En deux mots.
Moi, je crois que ça va tout simplement constater les désordres, ce qui n'est pas bon. Moi, je crois, ce que je déplore dans tout cela, c'est l'attitude d'abord, premièrement, des députés provinciaux. Ils devaient choisir la voie de l'hémicycle, au lieu de les faire en dehors de cet espace reconnu. Et l'attentisme ou le manque de communication du gouvernement aussi m'inquiète. Bon, je crois, avec beaucoup de réserves, je peux tout simplement dire que ces deux attitudes Bon, à mon avis, constate tout simplement l'insuffisance dans la gestion de l'État.
Voilà, dernier terme de ce soir, je l'ai annoncé dans mon introduction à l'Assemblée nationale. Plusieurs ministres du gouvernement central ont répondu mercredi dernier aux questions orales avec débat initiées par les députés nationaux. Parmi ces ministres, on peut citer Matata Mponyo des Finances, Macha Komamba de l'ESU, Bassingezi de l'Agriculture et Janine Mabunda du Portefeuille. Cette dernière, par exemple, Janine Mabunda répondait à la question orale avec débat du député Fidel Babala relative au désengagement de l'État dans deux entreprises publiques. Julien Harmony pour plus de détails.
Il s'agit de la SINAT et de l'OCUMOT, de deux entreprises publiques du portefeuille de l'État. Au sujet de la SINAT, Janine Mabunda a expliqué que cette entreprise est en difficulté depuis plusieurs années. En vendant quelques actions de la SINAT, le gouvernement a un objectif. Janine Mabunda.
L'objectif du gouvernement était de s'assurer de recettes additionnelles pour le Trésor par la vente de certains actifs et de s'allier un partenaire stratégique capable techniquement d'assurer la relance des activités de la SINAF suivant des normes internationales.
Cette décision du gouvernement est consécutive aux difficultés auxquelles est confrontée la SINAF, et notamment les arriérés des salaires accumulés, un outil de production obsolète, mais aussi de nombreuses créances vis-à-vis des régies financières et des fournisseurs. Reste que pour l'OCUMO, l'État n'a vendu que 2 gisements sur les 7 que compte l'OCUMO pour un montant de 130 millions de dollars américains.
Merci Julien pour ce reportage. Mbuyal Mangal, journaliste à la RTNC, le son que nous venons de suivre, hein, c'était juste une illustration pour dire que cette semaine, on a assisté à un défilé des ministres à l'Assemblée nationale. On sent que ça bouge, hein, au niveau des députés nationaux.
Oui, ça bouge parce que justement, nous sommes un pays à problème. Alors, la gestion est confiée au gouvernement et ceux qui représentent la nation à travers l'Assemblée nationale ont besoin d'avoir des informations. Parce qu'il arrive que nous-mêmes, journalistes, pour nous avons des difficultés à accéder à l'information. Alors, imaginez-vous les députés qui, pendant les vacances parlementaires, ont l'obligation de retourner vers la base et ils doivent rendre compte auprès de leurs électeurs, et de leurs futurs électeurs, ou de leurs anciens électeurs. Donc, c'est intéressant. En fait, je viens de me rendre compte à travers cet exercice, je vis passer, par exemple, les ministres du secteur social, éducation, affaires sociales et autres. En fait, quelle est la grande préoccupation? À ces ministères, aujourd'hui, même le ministère de la Santé, on donne un budget généralement insignifiant, mais dès qu'il y a des catastrophes, alors ce sont ces ministres qui entrent en jeu. Il faut maintenant faire appel au ministre de la Santé, il faut faire appel au ministre qui est en charge des affaires sociales et bien d'autres. Alors ça signifie qu'en fait, les députés sont parfois en train de se rendre compte que le secteur sociaux de base, comme on les a appelés à ce moment, ne bénéficient pas toujours de l'attention de l'État, surtout en termes d'élaboration du budget. On donne, je dirais, quelque chose, et au bout des comptes, dès qu'il y a des catastrophes, dès qu'il y a des menaces à gauche, à droite, on réalise que sont celles-là qui ont d'urgence des problèmes à résoudre et beaucoup de problèmes à résoudre. Parce qu'on a tendance de voir les choses à travers les grandes villes. Dès qu'on a dépassé les grandes villes, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Dès ce moment d'explication que je trouve de bon, comme de belles occasions, c'est ce qui est en train de se faire l'intervention du ministre du portefeuille. Et là aussi, même moi, je suis resté sur ma soif. Parce que souvenez-vous qu'au niveau du ministère du portefeuille, qu'on a créé le copyright pour accompagner des transformations des entreprises publiques. Mais au bout de l'exercice, vous réalisez qu'on n'est pas arrivé tout à fait. Parce que il y a des situations charnières. On est toujours en transition en rapport avec des transformations. Il y a des entreprises qui ne sont pas encore arrivées totalement à connaître des moments de leur transformation. Parce que ce qui est difficile, comment le ministère du portefeuille peut-il demander, par exemple, aux entreprises ou aux responsables d'urgence rester là à l'attendant et devait nous donner les actifs et les passifs de vos entreprises. Alors, moi, je me pose la question, et de tout le temps,
quand les ces entreprises se présentent au niveau où autrefois se sont présentées auprès du ministère du portefeuille. Mais c'était quel bilan qu'ils présentaient, c'est quel passif ils ont. Il arrivait qu'ils signaient des contrats de performance. Mais quels sont les éléments qui ont permis à un certain moment que ces entreprises-là signent des contrats de performance avec le ministère du portefeuille? Donc, c'était, on partait du vide pour pouvoir arriver à la performance. C'est donc, c'était des fausses performances.
Voilà, merci Mbouyal pour cette analyse. Arnold, c'est vrai, Mbouyal a parlé d'un exercice démocratique, hein, c'est défilé des ministres à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression que c'est devenu juste une formalité, parce que les recommandations, je dirais, ne sont presque pas appliquées par les députés. Hein.
Oui, effectivement, je me dis que, comme vient de dire mon confrère, ces interpellations traduisent aussi, entre autres, le travail que l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à faire. Mais pour moi, je me dis, elles signifient tout simplement que la gestion politique du pays soulève de nombreuses interrogations et projette aussi une image floue de l'avenir de ce pays. Alors, oui, quelque part, c'est déjà une formalité, puisque quand on s'établit que tel ministre, tel autre ministre n'a pas bien travaillé, mais lors des votes, on va tout simplement constater que la majorité, entre guillemets, appuie ou soutient inconditionnellement ces ministres. Donc, ça inquiète aussi. Bon, je me dis, un travail de fond doit être fait, c'est-à-dire voir qui est compétent et qui n'est pas compétent. Les députés à leur côté doivent aussi se remettre en question pour savoir si réellement les accusations qui sont portées vers les ministres sont fondées ou non fondées, au lieu tout simplement de rejeter certaines motions. Voilà.
Guilhem Banza, je rappelle que vous êtes directeur de la radio Téléfraternité et directeur provincial de l'agence congolaise de presse Kassai Oriental. Lorsque vous discutez avec la population, ils vous disent qu'on a l'impression qu'il y a un grand écart entre les débats qui se passent à l'Assemblée nationale et la base. Comment est-ce qu'on peut aider la population à s'imprégner de ce qui se décide ou ce qui se dit à l'Assemblée nationale?
Il faut d'abord appliquer ce qui est pris comme décision. Comme l'a dit le conseiller avant moi, il y a des débats, on invite les ministres, on fait des grands débats, on démontre ce qu'on peut démontrer, et en fin de compte, quelle décision on prend. Est-ce qu'on doit voter une motion ou quoi, là, et se rejeter tout de suite? Et c'est la même danse. On va rappeler les ministres, ils vont repartir, on va voter, parce que la majorité est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la majorité ne peut pas casser le gouvernement, la majorité au Parlement. Le Premier ministre lui-même l'a dit quand il s'est retrouvé devant le Parlement. Aujourd'hui, la population se dit, c'est un meilleur exercice démocratique au niveau du Parlement. Mais nous ne trouvons pas notre compte. Pourquoi? Parce que c'est le même ministre qu'on peut accuser d'avoir fait ceci et cela, démontré noir sur blanc. Et après le débat et tout ça, on retrouve le même ministre à son poste, il continue son travail, son bonhomme de chemin. À quoi ça sert à ce moment-là? Et ici, on est en train même de se poser la question de savoir si les députés ne veulent pas justifier leur présence à l'hémicycle. C'est bien, il y a des grands débats et chacun veut démontrer combien il sait ceci et cela. On peut même démontrer des choses très vraies, mais en fin de compte, il n'y a pas de sanctions, pas du tout, pas de motion. La motion est cassée tout de suite. La population se dit, où est-ce que nous allons avec tout ce débat? Et lorsque je reprends un peu rapidement dans une minute l'exemple qu'a donné le confrère Médard Mbouyal à propos des copyrights. C'était applaudi par tout le monde. Mais hélas, les mandataires ont été passés par un test de recrutement et on connaît tout ce qui s'est passé. Les meilleurs ont été retenus. Mais aujourd'hui, ils sont déclarés démissionnaires, ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, c'est encore une transformation des entreprises publiques. Mais ça rime à quoi tout ça? Nous avons besoin qu'on puisse, ils ont signé des contrats de performance, comme le conseiller l'a dit, qu'est-ce que ce contrat a donné après ce temps, une année ou une année et demie de travail? On fait des comptes là-dessus. On ne peut pas aller de transformation en transformation. Le chef de l'État lui-même a eu à les dénoncer.
Il a dénoncé clairement devant le Parlement, on n'a pas le temps d'aller d'étude en étude. Et c'est ce qui se fait maintenant.
Merci,
là, c'est du surplace.
Pour conclure rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Merci. Je dis tout simplement que la population ne se retrouve pas. Les débats sont là, mais il n'y a pas de conclusion qui puisse encourager la population.
Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Merci aux confrères d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Erung, Samuel Kachak, pour la supervision de Fé, l'équipe Elamondo. La technique était assurée par Guy Manzangou. Au micro, Kéline Foutier. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon suivi de programme sur Radio Okapi. Quant à moi, je vous retrouve demain dans Grand Témoin à partir de 12h30, heure de Kinshasa.